RFJ Info.
Le journal avec vous, Alexandre C. Bonsoir.
Bonsoir. Ils sont six à se distinguer au terme du premier tour de l'élection au gouvernement jurassien. Martial Courtais, Nathalie Bartoulo, Jacques Gerber et Rosalie Bressy terminent aux quatre premières places, alors qu'il manque les résultats de la commune de Haute-Saône. Le ministre sortant PCSI, David Herret, est lui sixième derrière le PDC Stéphane Babé. Réaction et analyse dans un instant. C'était pressenti, le Conseil fédéral a pris de nouvelles mesures aujourd'hui pour lutter contre la pandémie. Le port du masque est désormais généralisé à tous les espaces publics clos. Le gouvernement recommande d'éviter, si possible, les réunions en famille ou entre amis. Les skieurs suisses entament la saison avec brio. Marco Odermatt et Gino Caviezel sont montés sur le podium du géant d'ouverture de la Coupe du Monde. C'était cet après-midi à Solden. Le soleil devrait réussir à prendre le dessus demain. Il faudra toutefois encore compter avec quelques bancs nuageux en matinée. Les températures remonteront un peu par rapport à ces derniers jours. Les urnes ont donc quasiment rendu leur verdict pour ce premier tour de l'élection au gouvernement jurassien. Sur les 53 communes du canton, il ne reste que Haute-Saône qui n'a pas encore donné ses résultats. Le ministre sortant PDC Martial Courtais termine à la première place avec 43,5% des suffrages. Il est suivi par la socialiste Nathalie Bartoulo qui récolte 42,8% des voix, le libéral radical Jacques Gerber avec 42% et l'autre ministre socialiste sortant Rosalie Bressy avec 41,9%. Le PDC Stéphane Babé occupe la cinquième place avec 29,5% des suffrages. Il devance le ministre sortant PCSI, David Herret, qui est sixième à 26%. Et Cyprien Lovi, vous nous résumez cet après-midi d'élection.
Effectivement, Alexandre, on a pour l'instant quatre sortants dans un mouchoir de poche. Un match entre David Herret et Stéphane Babé, et puis le grand écart. Voilà ce que l'on peut dire sur les 13 candidats au gouvernement jurassien. Depuis la première commune tombée cet après-midi jusqu'à maintenant, Martial Courtais a quasiment tout le temps fait la course en tête. Mais il y a désormais un mouchoir de poche entre les quatre ministres sortants. Vous l'avez donné avec les pourcentages. Au niveau du nombre de voix, c'est 396 voix d'écart entre Martial Courtais et Rosalie Bressy. C'est environ 10 000 voix pour chacun des quatre ministres. Et puis ensuite, il y a effectivement, déjà un premier trou, puisque Stéphane Babé est cinquième avec 7168 voix. David Herret, le ministre sortant PCSI, sixième avec 6328 voix. Cela signifie que David Herret a fait 4000 voix de moins que les quatre autres ministres sortants. En attendant les résultats de Haute-Saône, il y a donc clairement pour le deuxième tour un match qui va se poursuivre entre David Herret et Stéphane Babé. Les autres partis sont largués. Les Verts placent pour l'instant leur candidat au 7e et 8e rang. Céline Robert-Charrue, 7e avec 3400 voix. Vincent Schmitt, quasiment 3000 voix, il est 8e. L'UDC encore plus bas avec Didier Spies, 9e. Brigitte Favre, 11e. Les Verts libéraux ne réalisent pas un score aussi important que peut-être être espéré. Ils sont pour l'instant dixième pour Émilie Moreau, dernier pour Alain Beret. Et puis la CS Pop aussi fait un petit score avec 2057 voix pour Francisco Pires, 12e pour l'instant de cette élection. La joie, si l'on analyse dans les détails, a appelé à rejeter David Herret et faire rentrer Stéphane Babé. Au Franche-Montagne, par contre, c'est très clairement le gouvernement actuel qui doit être reconduit si l'on regarde tous les résultats commune par commune. Et puis la vallée de Delémont est un peu plus partagée. Une statistique encore sur cet après-midi électoral, Alexandre. Martial Courtais est le seul candidat à être dans le top 5 dans les 52 communes dont nous avons connaissance.
Merci Cyprien. Et on part tout de suite pour l'hôtel du Parlement et du gouvernement à Delémont, où nos journalistes sont en compagnie des six premiers candidats.
Oui, les six premiers candidats, donc avec dans l'ordre, Martial Courtais, Nathalie Bartoulo, Jacques Gerber, Rosalie Bressis, Stéphane Babé et David Herret. On va commencer par Martial Courtais. Donc vous êtes pour l'instant en tête. On rappelle encore une fois qu'il manque les résultats de la commune de Haute-Saône. Comment vous accueillez ce résultat ?
Forcément très bien. Après, comme vous l'avez dit, c'est
pas terminé. De ce fait, il faut attendre le résultat définitif. Et surtout, c'est un premier tour. Donc, on verra ce qui va se passer par la suite. Mais je dirais quand même un sentiment de satisfaction. Il y a eu un gros travail, un gros engagement dans ces derniers mois. Et c'est un bel c'est un beau message de la part de la population, finalement un bel encouragement pour la suite. Et c'est ce que je retiens. Pour moi, ça c'est important, c'est ça qui me touche aujourd'hui.
Nathalie Bartoulo, c'est vraiment très serré entre les quatre premiers. Donc Martial Courtais, vous-même, Jacques Gerber et puis Rosalie Beressis. Il y a un sacré tir groupé, mais aussi un tir groupé à gauche. Hein. Vous tenez les deux dans un mouchoir de poche, les deux candidates. Il y a eu un vote groupé hein, côté socialiste.
Alors je pense effectivement qu'il y a eu un vote groupé, mais en même temps, je pense que c'est le lot du premier tour. En général, les partis déterminent un petit peu leur position, réaffirment leurs idées, leurs valeurs, et puis défendent, je dirais, fortement leur candidat. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est absolument ravis au niveau du Parti Socialiste des résultats enregistrés. Je remercie ici toutes les électrices et électeurs qui nous ont témoigné leur soutien. Et puis, comme vous l'avez indiqué, c'est un premier tour. Il s'agira de remobiliser dans le cadre du deuxième tour. Et puis, ce deuxième tour commence dès demain.
Jacques Guerber, vous arrivez en troisième position, ministre de la Santé et de l'Économie. Vous avez été... très en vue ces derniers temps avec la crise du coronavirus. Ça a quand même joué un rôle, selon vous, dans cette élection?
Alors, en quatrième position, vu que les derniers résultats sont tombés, je constate surtout le tir groupé et on voit que derrière, il y avait surtout une action gouvernementale et pas une action d'un individu, bien que... un membre du gouvernement qui porte la casquette de la santé et de l'économie, évidemment, durant cette crise, était un petit peu plus visible que les autres. Par contre, il faut remarquer ce tir groupé à 200-300 suffrages l'un de l'autre pour les quatre premiers.
Oui, vous l'avez dit, les résultats qui ont bougé au moment où je vous posais la question, vous êtes effectivement en quatrième position et c'est Rosalie Beressis qui arrive troisième, Raphaël.
Oui, peut-être juste pour donner ces résultats maintenant après la commune de Haute-Sorne, résultat final de ce premier tour, Marcel Courtais le remporte avec 11 516 suffrages, deuxième Nathalie Bartolo avec 11 401 voix, troisième Rosalie Beressis qui grimpe sur le podium au finish avec 11 135 voix. Quatrième place pour Jacques Guerber avec 11 008 suffrages. Donc ce quatuor se tient de près. Et puis après, il y a en cinquième position Stéphane Babet avec 7 721 voix et David Herret 6 987. Rosalie Beressis, vous terminez donc sur le podium. C'est un sacré exploit quelque part, sachant que vous venez d'arriver dans ce gouvernement. Il y a eu cette partielle que vous avez remportée au mois de mars. C'était pas gagné d'avance. On imagine plutôt une belle satisfaction ce soir.
Oui, je découvre ces résultats en même temps que vous. Donc c'est une grande satisfaction, une grande fierté. Et puis je tiens aussi à remercier les électrices et les électeurs de leur confiance. Il est vrai que pour moi, ça a été une année particulière avec une élection partielle il y a à peine 6 mois et aujourd'hui une nouvelle élection générale. Et puis, je peux que me réjouir de voir que Nathalie Bartolo et moi et le duo que nous formons au sein du gouvernement a su susciter la confiance des jurassiennes et des jurassiens.
Stéphane Babet, le PDC Jura, est reparti à la reconquête après avoir perdu son deuxième siège. Vous êtes aujourd'hui dans le top 5. Première mission accomplie?
Oui, première mission accomplie, tout à fait. Et puis je suis d'autant plus fier de mon résultat ce soir que, en fait, je n'ai pas bénéficié de la médiatisation des ministres sortants. Je partais avec un peu de retard quand même, de ce point de vue-là. Et de se retrouver cinquième ce soir, c'est une certaine fierté.
Et puis sixième, David Herret. Éjecté, on va dire, du top 5, si on peut parler comme ça, mais ça ne nous fait pas peur, apparemment.
Alors, je dirais qu'il y a une satisfaction, déjà, du soutien que j'ai eu des électeurs, que je remercie. Un soutien également de mon parti, qui s'est investi intensément dans cette campagne. Et le résultat, c'est que je suis dans le peloton pour attaquer la dernière ligne droite avant le sprint du deuxième tour. Donc, une satisfaction par rapport à ça, effectivement.
Alors, vous êtes directement à côté de Stéphane Babet dans cette interview. Vous êtes parlé presque amicalement. Pourtant, il y aura clairement match entre vous deux. En tout cas, on le ressent comme ça très, très fort dans ce deuxième tour. Comment l'un et l'autre, vous l'appréhendez, Stéphane Babet? Il va falloir éjecter David Herret du gouvernement.
Alors, ce n'est pas une question d'éjecter David Herret du gouvernement. Je crois qu'on s'apprécie très clairement, en tout cas personnellement. Et puis là, on a un projet à porter. Je pense que c'est ce qu'on a expliqué depuis le début de cette campagne avec Martial Courtais. C'est ce projet qu'on a véritablement envie de mettre en avant ces prochaines semaines.
David Herret?
Alors effectivement, le deuxième tour, ce n'est pas la même chose qu'un premier tour. Les électeurs, on le voit, de législature en législature, se comportent différemment. Nous sommes 6, a priori, à l'entame de la dernière ligne droite. Les électeurs sauront faire un choix pour choisir les 5 ministres qu'ils voudront au gouvernement, en tenant compte, probablement, d'un équilibre entre les régions, d'un équilibre entre les forces politiques. Et c'est aussi là-dessus que nous comptons.
peut-être une question aussi aux deux ministres socialistes. Du côté du PS, on serait prêt à donner un petit coup de pouce à David Herret ?
Alors écoutez, aujourd'hui on découvre les résultats, on va analyser, on attend maintenant les résultats au niveau du Parlement jurassien. Le congrès du Parti Socialiste réunira mardi pour définir la stratégie pour le deuxième tour. À ce stade, on attend aussi de voir ce qui va se passer du côté des autres partis et lesquels repartiront pour ce deuxième tour.
Bien, mesdames, messieurs, merci d'avoir été en direct dans ce journal de 18h. Donc les six premiers de ce premier tour de l'élection au gouvernement jurassien qui laisse entrevoir un deuxième tour qui sera pour le moins intéressant.
Merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Merci, merci.
Et voilà donc pour les six premiers candidats. On rappelle peut-être donc résultats finaux. Martial Courtais, le PDC, arrive en tête de ce premier tour avec 11 516 suffrages. Il est suivi par la socialiste Nathalie Bartolo, 11 401 suffrages. Ensuite, c'est Rosalie Borassis, également ministre sortante socialiste, 11 135 voix. Le PLR Jacques Gerber est quatrième avec 11 008 suffrages. Stéphane Babé, le PDC, arrive à la cinquième place, 7 721 voix, et le PCSI ministre sortant David Herret qui est donc à la sixième place avec 6 987 suffrages. Les deux candidats verts, Céline Robert-Charulinder et Vincent Schmitt, arrivent quant à eux derrière le peloton des six aux 7e et 8e places. Céline Robert-Charulinder se dit satisfaite de ce résultat. Elle estime que les arguments écologistes séduisent tout de même une partie de la population.
Je trouve que le résultat pour les verts jurassiens est vraiment très positif. Parce qu'on est les premiers, des viennent ensuite justement, donc il y a quand même une demande de la part de l'électorat assez claire en faveur de l'urgence écologique, et puis dans ce sens, il faut qu'on soit représenté d'une façon ou d'une autre, alors en tout cas au Parlement, pour pouvoir défendre cette cause.
Pour le candidat Vincent Schmitt, ce résultat légitimerait une candidature au deuxième tour.
Je pense que c'est déjà un bon résultat, évidemment le peloton de tête est un peu plus loin devant. Mais je pense que ça nous légitime pour clairement aller dans un deuxième tour. Et on espère qu'on validera cette solution demain à l'AG.
Vous irez au deuxième tour, en tout cas vous plaidez pour cette solution.
Voilà, oui, moi je plaide pour cette solution. Maintenant, à voir ce qu'on décidera demain.
De son côté, l'UDC fait la moue. Le candidat de la Vallée, Didier Spies, n'a recueilli actuellement que 11% des suffrages. Il pointe au 9e rang, selon les résultats définitifs, cette fois, la réaction de Didier Spies.
Ce n'est pas une bonne nouvelle, effectivement, pour deux raisons ou trois. La première, c'est que au niveau du district de Dlémont, pour l'instant, je devais autour des 14-17%. Je ne sais plus exactement les derniers chiffres où on en est. Alors, au niveau du district, je suis connu, je suis quand même impliqué là. Au niveau des grandes élections, j'ai jamais fait une grande élection au niveau du national aux États. Ça veut dire que c'est la première fois que je suis parti dans ce sens-là. Maintenant, si j'analyse les autres districts, c'est plus difficile. Mais ce n'est pas grave, c'est un tour de chauffe pour moi, on est d'accord. On a toujours dit qu'on est ambitieux, qu'on voulait partir. Et puis maintenant, on verra le résultat effectif qu'on aimerait avoir finalement au niveau du Parlement.
Sa colistière, l'Athénienne Brigitte Favre, fait encore moins bien. La réaction Brigitte Favre.
Déçu, oui, je pensais faire un petit peu mieux, c'est clair. Mais après, c'est ma première campagne dans tout le canton. Ça fait 5 ans que je suis au Parlement, donc c'est vrai que pour moi, ce n'était pas évident au départ. Mais je pensais faire un petit peu plus de voix, oui. En général, on voit au niveau suisse aussi que l'UDC peine maintenant à continuer de progresser. Elle est plutôt en train de reculer. Puis on voit clairement que les Verts sont en train de monter, comme on pouvait déjà un peu le prévoir aux élections nationales, par exemple.
L'UDC Brigitte Favre qui en fait arrive selon les résultats définitifs à la 10e place, et à la 11e c'est donc Émilie Moreau, donc au niveau des Verts libéraux, nouvelle formation jurassienne, les Verts libéraux qui ont terminé dans le bas du classement à cette élection au gouvernement jurassien. Un résultat tout de même encourageant pour Alain Beret qui a lui recueilli 7,49% des suffrages. On l'écoute.
On part de rien, nous n'avions aucune base électorale. Il y a même encore quelques mois, on ne savait même pas si on aurait les moyens de présenter des candidats pour le Parlement, encore moins pour le gouvernement. Donc pour nous, chaque voix est déjà une victoire. Et puis voilà, c'est les premières pierres qu'on pose aujourd'hui. Je pense que si on reprend historiquement l'entrée des partis dans des grandes élections comme ça, il y a quelques années en arrière, ils n'ont pas fait mieux. Je pense qu'on a fait une bonne campagne, Alain et moi. On a prouvé qu'on avait aussi des qualités pour être à la hauteur de l'enjeu.
Voilà, et donc vous l'avez compris, c'était Émilie Moreau qui réagissait. Donc Émilie Moreau qui a terminé, on l'a dit, à la 11e, donc, et Alain Beuret qu'on va écouter maintenant, qui est 12e de cette élection au gouvernement jurassien.
Alors non, on n'attendait pas forcément mieux. Je pense que pour un parti qui s'est lancé dans la course il y a quelques mois, c'est déjà pas mal. Après, on a des idées parfois qui sont peut-être trop en avance, je ne sais pas. On prend note de ce qui se passe et puis c'est un score qui est quand même honorable. Surtout, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui va se passer pour le Parlement. Et là, pour le moment, on attend.
Voilà, on va y arriver. Alain Beuret qui termine à la 13e place de ce premier tour. Quant à la question du deuxième, il nous a confié qu'il ne se présenterait pas au vu de son résultat. Émilie Moreau attend, elle, de connaître les résultats des Verts libéraux au Parlement avant de se prononcer. Le candidat du CS Pop et Gauche en mouvement, Francisco Pires, arrive, lui, en avant-dernière position avec 8,5% des voix. Le pari de l'ancien franc-montagnard dans la course n'a donc pas payé. La déception est grande pour Francisco Pires qui regrette également le faible taux de participation.
Ma foi, nous, les idées qu'on défend, elles resteront de mise. Hein. Et c'est un peu dommage qu'on ait loupé ce coche, qu'on n'ait pas pu aussi mener campagne, mais ça, c'est la situation sanitaire qu'il a voulu, comme tous les autres partis, pour se faire connaître davantage. Parce que peut-être qu'avec mon profil tout à fait, comment dire, hors sérail, peut-être que ça a joué dans le résultat d'élection. Voilà, l'unité de la gauche à laquelle on appelait, CSPOP a appelé à l'unité de la gauche dès le premier tour, n'a pas joué. Et voilà, nous en sommes les grands perdants.
Voilà pour la réaction du CSPOP Francisco Pires. Et on retourne du côté de l'hôtel du Parlement où Nancy Chapuis, vous avez quelques résultats à nous donner.
Je vous propose effectivement de regarder les résultats qui sont tombés pour Haute-Saône. Haute-Saône, c'était la dernière commune qui n'avait pas encore livré, fini de dépouiller pour le gouvernement. C'est Nathalie Bartoulot qui finit première. La candidate ministre sortante du Parti socialiste recueille 1005 voix, suivie de Rosalie Beuret, 6, la seconde socialiste, avec 958 voix. Martial Courtais complète le podium avec 943 voix. Jacques Gerber, le PLR, arrive quatrième avec 805 voix. Enfin, David Herret complète ce top 5 avec 659 voix. Je propose maintenant de faire une analyse de ces résultats avec Raphaël Chalvera.
Oui, Nancy, une analyse toute relative puisque les résultats finaux de ce premier tour viennent de nous parvenir, donc on n'a pas non plus un grand recul. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que la prime au sortant a parfaitement fonctionné pour les ministres en place, même si David Herret termine sixième. Les six premiers ont creusé l'écart sur leurs poursuivants. La crise du coronavirus a aussi profité au gouvernement jurassien qui a dû gérer justement les affaires en cette période de pandémie pas facile à vivre pour la population. Le deuxième enseignement que l'on peut dire, que l'on peut tirer, c'est que le PDC, en quête de récupérer son deuxième siège, a réussi son pari ce soir en plaçant Stéphane Babet en cinquième place, donc dans ce fameux top 5, avantage psychologique peut-être pour le maire d'Al face à David Herret en vue du deuxième tour. En tout cas, le match attendu aura lieu entre les deux hommes qui nous l'ont dit il y a quelques instants. Autre enseignement, il n'y a pas eu de vague verte, celle que les écologistes attendaient, du moins pour l'élection au gouvernement. Alors les écologistes espèrent avoir réussi à placer quelques députés supplémentaires par rapport à leur situation actuelle au Parlement, mais ça on le saura d'ici les prochaines heures. Le Parti Vert Libéral, qui espérait faire une entrée intéressante sur la scène politique jurassienne, eh bien, a manqué, lui, son pari en traînant vraiment dans le fond du classement avec Émilie Moreau et Alain Beuret. Et puis, peut-être aussi mentionner encore cette claque quand même reçue par l'UDC, qui pensait aussi pouvoir se mêler à la lutte aux premières places et qui se retrouve très loin avec Didier Spies et Brigitte Favre. Enfin, une déception pour terminer, c'est sans doute la participation de ce scrutin. On vient de découvrir le chiffre final, 47,5%. Ça veut dire que moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes pour ce premier tour. À titre de comparaison, la participation était de 54,1% en 2015 lors des dernières élections. Alors bien sûr, elles étaient couplées aux élections fédérales. Ceci explique la bonne participation il y a 5 ans. En 2010, 50,1% et en 2006, 51,9%. Donc ça fait quand même un sacré écart, cette participation faible pour un scrutin tel que celui-ci.
Alors merci Raphaël en direct de l'hôtel du Parlement et du gouvernement. Et on va peut-être récapituler une dernière fois tous les résultats donc dans l'ordre de cette fois juste de ce premier tour à l'élection au gouvernement jurassien. Donc Martial Courtais, le PDC arrive en tête. Il est suivi par la socialiste Nathalie Bartolo, sa colistière Rosalie Boressis, le PLR Jacques Gerber est quatrième, le PDC Stéphane Babé cinquième, le ministre sortant PCSI David Herr est sixième. Viennent ensuite les deux candidats verts, Céline Robert-Charulinder et Vincent Schmitt, l'UDC Didier Spies, puis sa colistière Brigitte Favre, et puis donc on arrive à Émilie Moreau, la verte libérale, qui est devant Francisco Pires. La dernière place est occupée par le vert libéral Alain Beuret. On retourne au Parlement, apparemment.
Oui, Alexandre, je vous propose de faire un petit point sur le Parlement, puisque beaucoup de communes ont fini de dépouiller. Par exemple, dans le district de Porrentruy, Basse-Alaine, Bournevezin, Boncourt, Bonfol, Bure, Queuve, Corneul, Courchavon, Courgenay, Courtedoute, Danfreux, Grandfontaine, Otageois, Lugné et Vendelincourt ont livré leurs résultats. Puis sur les 20 sièges de députés à Joulot à pourvoir ici au Parlement, le PDC récolte une jolie part avec 32% des suffrages, suivi du Parti libéral radical, un peu moins de 20%. Ensuite, nous avons le Parti socialiste ainsi que l'UDC qui récolte tous deux entre un peu plus que 13%, suivi après des Verts à environ 8%. Si on se dirige dans le district de Lémont, où les communes de Bourignon, Châtillon, Courchapois, Kourou, Courtetel, Edersviller, Métambert et Rosmaison ont livré leurs résultats. On retrouve ici le Parti socialiste, première position pour les 30 sièges du député Vadet, avec un peu moins de 25% des voix, suivi du PDC-JDC, 19%. Ensuite, qui stalonne l'UDC, 12%, le PLR, un peu moins de 12%. Et puis notons par exemple les Verts à 10% et le PCSI à 9%. Enfin, du côté des Franches-Montagnes, on a presque toutes les communes, là, La Chaux-des-Breuleux, Le Bémont, les Breuleux, les Genevés, Montfaucon, Murieu, Seignelay-Gier, Saint-Bray et Soubé ont fini de dépouiller. On retrouve ici d'un nouveau le PDC-JDC qui occuperait le plus de sièges sur les 10 à pourvoir aux Franches-Montagnes avec 22,5%. Suivi du PS, un peu moins de 19%. Ensuite, le PCSI, 16%. Suivi des Verts, 14%. Et le PLR, 11%.
Merci Nancy pour ces précisions, ces premières précisions donc par rapport aux résultats de l'élection au Parlement jurassien. La flambée des cas de coronavirus est suffisamment inquiétante pour que le Conseil fédéral reprenne la main avec l'accord des cantons. Le gouvernement a tenu ce dimanche une séance extraordinaire et fixé de nouvelles mesures qui doivent frapper les esprits. La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga.
Nous devons freiner maintenant la propagation du virus. Ceci est dans l'intérêt de notre santé, mais également dans celui de notre économie. Chaque jour compte.
Un paquet de 5 mesures va donc entrer en vigueur dès demain. Le port du masque sera désormais obligatoire partout en Suisse, dans les lieux publics clos, des magasins aux gares, en passant par les bars et les lieux de culte. Concernant les réunions en famille ou entre amis dans l'espace privé, le Conseil fédéral recommande de les éviter dans la mesure du possible. S'il y a toutefois plus de 15 personnes réunies, il faudra être assis pour consommer et respecter les règles d'hygiène. À l'extérieur, les rassemblements spontanés de plus de 15 personnes sont interdits. Enfin, le Conseil fédéral recommande le télétravail, autant de mesures nécessaires selon le ministre de la Santé, Alain Berset.
Si rien ne se passe, ça va maintenant, et c'est ce que nous disent tous les spécialistes, doubler. Il suffit d'une semaine pour voir le doublement des cas. On ne verra que dans 2 à 4 semaines l'évolution sur les hospitalisations des cas d'aujourd'hui. Nous nous sommes depuis longtemps, depuis des mois, demandé à quoi ressemblerait une deuxième vague, est-ce qu'elle aurait lieu. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle arrive. Cette évolution est inquiétante, mais en même temps, nous ne sommes pas livrés. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette évolution, mais il faut avoir du respect devant cette évolution. Nous savons aussi ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation. Et c'est le moment maintenant où nous devons tous nous remettre à utiliser ce que nous avons appris au printemps. Nous pouvons prendre les mesures que nous voulons. Il faut en plus, évidemment, la participation pleine et entière de la population pour que cela fonctionne.
Un dossier réalisé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. La loi fédérale sur les épidémies fixe un prix à l'infraction de l'obligation de porter le masque. L'amende peut aller jusqu'à 10 000 francs. Le canton de Berne a de son côté décidé d'interdire dès demain les grandes manifestations de plus de 1000 personnes. Ce en raison de la dégradation de la situation sanitaire dans le canton. Les équipes de National League de hockey sur glace, Bienne, Berne et Langnon ne pourront ainsi plus remplir leur stade aux deux tiers de leur capacité, comme ça a été autorisé depuis le 1er octobre. En football, le Young Boys s'est également concerné et les ligues en question et les clubs devraient informer sur les suites de l'interdiction en fin de journée. Et alors que le Conseil fédéral annonçait de nouvelles mesures, plusieurs centaines de manifestants se sont retrouvés sur la place fédérale cet après-midi. Ces personnes entendaient protester contre la politique de la Confédération liée au coronavirus. Certaines d'entre elles ont été emmenées par la police sous un concert de sifflets. Des journalistes présents sur place ont fait part de scènes tumultueuses et d'une ambiance agressive.
Il est 18h26.
Sport. Et les sports, c'est avec vous, Yanis Gonia.
Et oui, Alexandre, et l'on débute avec deux belles performances signées Marco Odermatt et Gino Caviezel. Les deux Suisses ont pris les deuxième et troisième places du géant de Coupe du Monde de ski alpin cet après-midi à Sölden. Sur la piste autrichienne, c'est le Norvégien Lucas Bratten qui s'est imposé. Retour sur la première épreuve de la saison et le joli tir groupé helvétique avec Guillaume Joly.
La Coupe du Monde de ski alpin a repris ses droits aujourd'hui en Autriche. Pour l'occasion, les meilleurs spécialistes de géants ont rechaussé les lattes à Sölden. Annoncés parmi les favoris, les Suisses n'ont pas craqué sous la pression, bien au contraire. Septième après la première manche, Marco Odermatt s'est montré le plus rapide lors du second tracé pour remonter au deuxième rang, à seulement 5 centièmes du lauréat norvégien du jour, Lucas Bratten. Autre bonne surprise du côté helvétique, c'est Gino Caviezel qui complète le podium. Après avoir réalisé le meilleur chrono en première manche, le Grison a finalement cueilli la troisième place au terme d'un deuxième parcours moins propre. En plus de ces deux performances de choix, c'est la prestation d'ensemble des Suisses qui annonce une saison prometteuse, puisque Loïc Meillard termine 5e de cette première course de l'année, suivi un peu plus loin par Justin Murizier 11e et Daniel Essete 20e.
Et les skieurs de la Coupe du Monde ont maintenant près d'un mois d'attente avant de poursuivre la saison. Ils disputeront un slalom parallèle le 14 novembre prochain à Lech, toujours en Autriche. Le duel roman de Super League de football a accouché d'une souris. Sion et Lausanne ont fait match nul 0-0 cet après-midi en Valais. La partie entre Lucerne et le leader Saint-Gall s'est-elle soldée par un score de 2-2. Enfin, la rencontre Zurich-Bâle a été annulée. Un cas de coronavirus ayant été découvert aujourd'hui dans le vestiaire du FCB. Et les formations jurassiennes ont fait fort cet après-midi en Première Ligue. Le FC Basse-Cour est allé battre Langenthal 1-0 en terre bernoise. Les SR de Léman ont de leur côté dominé la lanterne rouge Goldau 4-0. Le FCB remonte ainsi au 6e rang, les SRD à la 8e place. Et du côté de la deuxième ligue interrégionale, le FC Ajoie Monterrey a perdu le choc au sommet sur la pelouse de Thun M21 2-0. Le Jura perd déjà l'un de ses deux candidats au titre de Liga d'Inline Hockey. Le SHC Bué a subi la loi de Malcantonnet 7-4 cet après-midi au Tessin, dans l'acte 2 des quarts de finale des playoffs. Battu hier en Ajoie, le leader de la saison régulière est donc éliminé. Et de son côté, le SHC Rosmaison a perdu face à l'échelle sur le score de 7-5. Il est ainsi rejoint dans sa série. L'acte 3 décisif pour une place en demi-finale est prévu samedi prochain au Forum Biwi. Mathieu Van Der Poel s'offre la 104e édition du Tour des Flandres. Le cycliste néerlandais a remporté cet après-midi la course longue de 244 km entre Anvers et Oudenaarde. Il a battu au sprint son compagnon d'échappée, le Belge Wout Van Aert. Et à noter que le récent champion du monde, le Français Julien Alaphilippe, a chuté à 35 km de l'arrivée après avoir percuté une moto de l'organisation. Et sur le Tour d'Italie, c'est le Britannique Tao Gegenhardt qui a remporté la 15e étape. Il a devancé de 2 secondes le Néerlandais Wilco Kelderman après les 185 km entre Rivolto et Piancavallo. Arrivé 4e, le Portugais João Almeida conserve le maillot rose de leader. Enfin, les Espagnols ont trusté le podium du Grand Prix de MotoGP d'Aragon. La victoire est revenue cet après-midi à Alex Rins. Le pilote de Suzuki a devancé Alex Marquez et son coéquipier Juan Mir qui s'empare de la tête du championnat. En Moto2, Thomas Lüthi a terminé 12e après une course stérile. C'est l'Anglais Sam Lowes qui s'est imposé devant l'Italien Enea Bastianini, nouveau leader du championnat. Et enfin, en Moto 3, la victoire est revenue à l'Espagnol Jaume Masia. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous laisse avec Sophie pour la météo.
Merci Yanis. Notre émission spéciale élections gouvernement et parlement jurassien continuera juste après ce point météo. Ce soir et cette nuit, une couche nuageuse, souvent assez compacte, sera encore présente en plaine. Il vous faudra monter au-delà de 2000 mètres d'altitude pour sortir la tête des nuages. Demain, lundi, il y aura encore des bandes nuages bas régionalement compactes en matinée au-dessus de la région et du brouillard dans le Jura. Sinon, les nuages se morcelleront petit à petit au fil des heures et on devrait, en principe, pouvoir passer à un temps relativement bien ensoleillé, parcouru toutefois de quelques voiles d'altitude. Les températures seront de saison, il fera entre 11 et 14 degrés au meilleur de la journée sur la région.